Salut et bienvenue dans une nouvelle interview de 50 femmes inspirantes. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Karine Francisco, qui est une des rares personnes que j'ai vues en vrai, en présentiel, en chair et en os, avant de l'interviewer. Ce n'est pas la majorité des interviews, mais c'est bien aussi de changer nos petites habitudes. Karine, c'est quelqu'un que je décrirais d'abord hyperactif, avec plein de projets dans tous les sens. Et donc, tu vas nous parler un petit peu plus de tous tes projets. Comment est-ce que tu es sortie d'un emploi de salarié un peu classique et comment est-ce que tu as diversifié tout ça? Tu fais une reconversion professionnelle et maintenant, j'ai l'impression que c'est un tronc d'arbre qui est parti avec plein d'arborescence. Donc, raconte-nous un petit peu d'où tu viens et comment c'est en train de se transformer tout ça.
Eh bien, bonjour, bonjour déjà, bonjour tout le monde. Comme je te l'avais dit au départ, quand tu m'as proposé de faire cette interview, j'étais assez émue et honorée de faire partie de potentielles femmes inspirantes. Je suis vraiment ravie d'être là, ça me fait plaisir. Et pour me présenter un petit peu, je m'appelle Karine, j'ai 38 ans, 39 bientôt. Je suis maman solo de deux enfants, de 7 et 14 ans. Un chat, un chien pour compléter toute cette belle tribu. Et professionnellement, donc effectivement, je suis issue du tourisme. J'ai travaillé pendant plus de 18 ans dans le tourisme. Et est arrivé le Covid. Et du coup, le Covid, pour moi, ça a été une grosse opportunité de changement. Alors, c'est vrai qu'il y avait un terrain peut-être un peu fertile parce que je suis optimiste de nature et je vois un peu le positif en toute chose. Et pour le coup, ça avait vraiment été le cas puisque pendant cette période où le tourisme s'est retrouvé vraiment au ralenti, j'ai fait un bilan de compétences, j'ai pris le temps aussi un peu de faire le point sur mes envies, sur mes projets. Et puis de là, ça m'a aussi ouvert un champ des possibles. Donc, j'ai fait différentes formations. Ensuite, j'ai fait une formation longue. J'ai repris mes études pour faire une reconversion professionnelle avec une partie théorique et une partie pratique. Donc, ça a duré près de 8 mois. Je suis fraîchement diplômée donc en tant que community manager. Et depuis, donc, j'ai repris au mois de février. Alors, j'ai repris un poste en tourisme. Mais avec mes nouvelles fonctions, du coup, community manager, communication, marketing, ça me permet d'allier un petit peu mes deux domaines de prédilection. Et en parallèle à ça, en side project, j'ai lancé mon auto-entreprise qui était aussi dans la continuité de tout ce que j'avais fait, à la fois sur les formations, sur community manager, sur la formation de copywriting aussi que j'avais pu faire avec Live Mentor. Et donc aujourd'hui, je suis freelance, community manager, copywriteuse. Et du coup, j'équilibre un petit peu mon temps entre un statut salarié qui m'apporte quand même cette sécurité, parce qu'en étant maman solo, ce n'est pas forcément évident comme ça pour moi de me lancer en entrepreneuse, mais quand même un boulot qui me plaît, qui me passionne. Et puis à côté, ce projet où j'ai, entre guillemets, le luxe de choisir un peu les clients et les missions qui me parlent, puisque je m'impose aussi un certain nombre de clients pour me laisser non plus submerger, faire les choses bien et garder un petit peu du temps pour vivre quand même. Voilà.
Ok. Si on revient un petit peu sur ta reconversion professionnelle, ton bilan de compétences, ça t'a apporté quoi? Comment ça s'est passé? Quelle est l'essence de ce que tu as pu tirer de cette réflexion?
Alors, en fait, le bilan de compétences, au départ, quand je l'ai démarré, c'était pas sans conviction, mais je me suis dit, bon, on est dans le tourisme, on est tous au chômage partiel, on bénéficie d'un dispositif qui s'appelait le FNE, le Fonds National pour l'Emploi. Du coup, on avait le droit de faire des formations et un petit peu, on va dire, on l'a un petit peu appris en dernière minute et je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'il y aurait de possible? Le bilan de compétences, pourquoi pas, ne sachant pas de quoi demain sera fait, on démarrait un peu cette période de Covid. Je me suis dit, ce sera toujours bon à apprendre. Au mieux, finalement, le Covid s'arrête et puis tu continues ton boulot commercial dans le tourisme et puis c'est chouette. Au pire, entre guillemets, le Covid fait que c'est plus long que prévu et de toute façon, un bilan de compétences, c'est quelque chose qui te servira toujours dans ta vie, en fait. Mmh. Donc, au départ, je le faisais en me disant, puisque j'ai un droit à la formation à utiliser, autant le faire et autant faire un truc qui me servira, un bilan de compétences. Dans l'idée, ça va me permettre aussi, moi, de mieux me connaître, de faire un acquis sur ce que je sais faire, ce que j'ai envie de faire, ce à quoi j'aspire, ce que j'ai pas du tout envie de faire. Donc, c'était un petit peu le postulat de base, c'était le faire parce que j'en ai la possibilité et on verra ce que ça donne. Et au final, au fur et à mesure des étapes, effectivement, ça, ce qui s'est passé, c'est que ça a vraiment opéré un changement en moi aussi, une ouverture des possibilités, puisqu'on a fait Notamment, je me souviens à une étape où on faisait un peu le test des 100 métiers. Peu importe les compétences, peu importe ta formation, peu importe ce que tu avais fait, en fait, tu avais 100 métiers et il fallait les classer en j'aimerais, j'aimerais pas. Et dans j'aimerais, il y avait pâtissier, cuisinier, éleveuse de chiens, toiletteur, community manager, enfin voilà, plein de choses comme ça. Casque bleu, enfin tu vois des trucs avec la justice, avocat. Et dans ce que je voulais pas, tout ce qui était les chiffres. Genre commissaire aux comptes, enfin des choses comme ça. Donc, du coup, déjà, c'est vrai que ça m'avait permis de diviser un peu en deux catégories, un peu les boulots plaisir et les boulots où vraiment pas du tout. Et ensuite, dans ces boulots plaisir, l'idée, c'était de se dire qu'est-ce qui est rationnellement envisageable. Par exemple, bah, tout ce qui était sur l'insertion de la jeunesse, la délinquance, gardien de prison, enfin, c'est des choses qui me plaisaient vraiment énormément, mais depuis toujours. Sauf qu'en les rendant plus factuels, il fallait reprendre des études et aller en centre de formation sur Angers. C'était du coup possible. Mais ça te permet aussi bah, de renouer peut-être avec d'anciens rêves un peu enfouis. Et puis aussi d'en faire sortir de nouveau, puisque ça a été le cas avec le métier de community manager. C'est de se rendre compte qu'en fait, c'est quelque chose que je faisais déjà à titre personnel sans m'en rendre compte, en fait. Que j'avais toujours ce goût pour bah, créer du lien, animer des communautés, fédérer des gens autour d'une cause, autour d'un projet, autour d'un événement. Et en fait, bah, quand tu te rends compte que ça porte un nom, c'est un métier de faire ça sur les réseaux. Je me suis dit, bah oui, si en plus je peux faire quelque chose que je fais déjà et que j'aime déjà et en faire un métier, pourquoi pas? Et donc ensuite, bah, la continuité, ça a été de faire des études et des enquêtes métiers, de voir un petit peu quelle forme ça pouvait prendre, de choisir un organisme de formation, de voir au niveau de mon projet de financement, parce que donc je suis passée par Transition Pro, c'est l'ex-Fongessif en fait, ce
D'accord.
qui permet de prendre un congé pour formation professionnelle, où du coup j'avais mon salaire et l'organisme rémunérait et payait ma formation. Alors après, c'est sur dossier, il faut avoir un dossier un peu béton, un peu constitué, mais voilà, j'ai mis vraiment toute ma pêche et toute mon énergie et c'est passé. Et du coup, ben, j'ai pu faire cette formation auprès de l'IFOCOP, donc un organisme de formation sur Paris. Et donc, on a eu la partie, voilà, comme je disais, une partie cours avec des intervenants et vraiment des gens du métier. Et ça, c'était super enrichissant de pas juste avoir quelqu'un qui vient de déballer des heures et des heures de cours théoriques, mais vraiment des gens ancré dans la réalité du métier où tu te dis, ah ouais, il y a vraiment un partage d'expérience, de conseils. Ça, c'est ce qui a changé toute la donne. Et puis après, la partie aussi mise en pratique sur le stage, qui était capitale parce que forcément, pour optimiser un petit peu tout ce que tu as appris, l'idée, c'était de pouvoir la mettre en pratique sur le terrain. Moi, c'était aussi mon projet de base de me dire, ben, je me reconvertis. Aujourd'hui, il y a des études qui existent pour être community manager quand tu fais un master, tu sors d'école à 20 ans, 25 ans. Moi, j'en ai presque 40. Demain, si je veux me faire embaucher, je vais avoir quoi comme légitimité? L'idée, c'était vraiment de faire une vraie formation certifiante avec vraiment un stage, une mise en pratique, qui a pu après ben, jouer aussi dans ma reprise de poste et dans les contacts que j'ai aujourd'hui sur la partie freelance, puisque du coup, ça a aussi donné une continuité à ce projet-là, en fait.
T'étais du coup en pause sur ton travail pendant cette
Alors
partie-là?
du coup, sur cette partie-là, en fait, j'étais donc le statut de transition pro, ça veut dire que tu es toujours en poste officiellement, tu prends aucun risque.
Mais
Par
tu vas
contre,
pas au
j'étais
travail.
entièrement, voilà, non, j'étais entièrement dédiée à ma formation et à ma reprise d'études.
Et ça ressemble à quoi d'être une maman qui reprend des études?
Ça ressemble à. Par moments, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais? Mais en même temps, je savais très bien ce que je faisais. Ça ressemble à beaucoup d'efforts, pas mal de sacrifices, pas mal d'heures de sommeil en moins aussi. Mais c'est super plaisant, c'est jouissif en fait, parce que ben, tu apprends des nouvelles choses, tu te rends compte que ton projet prend forme. Après, clairement, quand tu te retrouves à faire des TP, à avoir des évaluations, à devoir réviser des blocs d'éval sur du marketing, tout ça, enfin, tu te dis waouh. Mais si c'était à refaire, je le referais 1000 fois parce que ça vaut vraiment le coup. Et bah, quand on s'est vu là sur la partie d'examen, on a eu un oral et ensuite une soutenance aussi écrite. Enfin, il y a une vraie émotion, il y a un vrai partage au niveau du groupe parce qu'on a tous conscience d'avoir vécu un truc dingue en fait. De se dire, on était un groupe à peu près entre 35 et 40 ans pour la plupart, tous sur des reconversions et des domaines divers et variés. C'est vraiment une opportunité en or et je me dis et je le dis souvent, c'est que on a la chance en France d'avoir ces droits-là et d'avoir ces possibilités-là, d'avoir des droits à la formation, des accompagnements, des possibilités de financement. Et faut vraiment explorer ces pistes-là, faut vraiment les saisir. Parce que ça peut être un frein parfois de se dire mais oui mais comment, enfin à qui je m'adresse, etc. Et une fois qu'on a fait sauter ces leviers, c'est que du bonheur et ça valait vraiment vraiment le coup. C'était sport.
Sur le passage entre commercial et community manager, tu vois, pour toi, il y a un lien, c'est un peu le même métier, c'est très différent.
Alors, il y a enfin, disons qu'il y a un lien, il y a un terrain de base où il y avait ce côté ben, sur l'écoute, sur le sens du relationnel. Il y avait aussi l'aisance rédactionnelle sur le fait ben, d'aimer partager ou le fait de rédiger aussi ben, les programmes de mes clients parfois, où j'avais aussi cette amplitude, cette marge de manœuvre de pouvoir vraiment faire des choses à la carte. Et le lien, oui, je le vois par rapport à ça. Je le vois sur le fait d'être à l'écoute du besoin de ton client, de vouloir du coup, en tant que community manager, lui rendre service et lui apporter une solution à son besoin qui est plus visible, plus présent sur les réseaux. Alors, quelle que soit la finalité, hein, que ce soit pour vendre, pour avoir plus d'adhésion à un projet, sur une association. Enfin, après, la finalité peut être différente. Et dans l'idée, c'est ça, c'est écouter un besoin. Le transformer en solution et ensuite le mettre en pratique, si tu veux. Donc, la continuité, ouais, moi, je la voyais là-dedans.
Et les différences entre un community manager et un commercial?
Alors, moi, je dirais que, et c'est ce qui m'avait toujours un peu bloqué dans le métier de commercial, c'était le fait d'avoir ce côté, pas du bien, ou parfois tu as vraiment l'image du commercial véreux qui vendrait père et mère pour décrocher un dossier. C'est toujours quelque chose sur lequel moi j'ai eu du mal. Donc ça va que j'ai pu être commercial à ma sauce et avoir ce côté un peu commercial. On dit souvent chasseur ou éleveur, et moi j'étais pas commercial one shot à vouloir faire des gros coups et au revoir, ciao. J'étais plutôt sur une écoute, une fidélisation de mes clients. Mais c'est vrai que ce côté de rémunération variable où tu te dis non, bah là, il faut vraiment que tu décroches ton dossier. Si tu rates un appel, tu as l'impression limite que bah, tu vas avoir raté l'affaire du siècle. Moi, c'était un gros soulagement et c'est vraiment ça aussi qui m'a fait me dire bon, arrête le commercial. J'adore le tourisme, mais en tout cas, j'arrête le commercial. Et j'avais même fait l'expérience au préalable, suite à des licenciements économiques aussi dans ma vie d'avant. De faire des entretiens d'embauche de commercial pur, sans être dans le tourisme. Et c'est là que je me suis dit, non, mais en fait, je suis commercial parce que ça a été une opportunité d'évolution en interne. Mais je ne suis pas commercial dans l'âme, je n'ai pas fait d'études de commerce parce que j'ai du mal avec ce truc-là, en fait, de vendre pour vendre. Et même quand je présentais un super beau voyage, j'étais convaincue que mon voyage était génial, mais au moment de faire signer le contrat, j'avais toujours l'impression de mettre le couteau sous la gorge à mon client. Et quand tu es commercial, en principe, tu n'as pas ça. Donc ça me soulage de plus avoir ce côté-là, de me dire je le fasse signer à tout prix. Après, je peux le retrouver en partie sur le côté community manager freelance. Effectivement, le but, c'est d'acquérir de nouveaux clients. Et comme pour moi, ça, c'est vraiment une partie bonus, mais finalement, je ne l'ai pas non plus. Parce qu'en fait, j'ai la chance de pouvoir travailler sur des missions qui m'intéressent, avec des domaines d'activité qui sont super intéressants. Donc au final, je me dis, ben non, en fait, j'ai pas besoin de me saigner pour décrocher un contrat. Eh bien, ça va être vraiment du bonus et je peux même choisir en fait ceux avec qui j'ai envie de travailler. Donc ça, c'est un soulagement de ne plus avoir cette partie-là.
Cool. Donc ensuite, tu as suivi la formation copywriting chez Live Mentor. Ça, qu'est-ce que tu as appris dans cette formation? Et pour ceux qui nous regardent et qui savent pas ce que c'est du copywriting, peut-être quelques mots là-dessus.
Ouais, alors pour faire simple, le copywriting, en fait, c'est l'art ou la science même d'utiliser les bons mots pour déclencher une action chez son lecteur. Que ce soit effectivement une action d'achat, d'inscription à un webinaire, d'adhésion ou d'inscription sur un newsletter. C'est déclencher une action chez son lecteur. Et ben, cette formation, alors ça a été très intéressant parce que d'une part, c'est vrai que j'avais tendance à même à me dire et à entendre, ah ben t'écris bien, t'as une belle plume, c'est chouette. Mais en fait, le copywriting, ça va au-delà de ça. Et finalement, tout le monde peut bien écrire si on a les bonnes techniques, en fait. Et ça m'a permis vraiment d'avoir cet apport-là. Je pense par exemple aux structures sur les pages de vente, notamment sur les newsletters, la fameuse structure papa avec le problème, l'avantage, la preuve et le call to action. Après, le fait de passer à l'action. Ça, c'est des choses qui aujourd'hui me servent énormément parce que je me dis, voilà, factuellement, comment tu organises ton texte, où est-ce que tu veux arriver, quoi tu veux amener ton lecteur. Et ça a été vraiment une superbe expérience. Et sans parler du fait que mon coach Live Mentor, j'ai eu la chance de pouvoir poursuivre après cette connexion. À travers ensuite mon stage de community manager, ça m'a permis aussi de te rencontrer. Voilà, ça a été une superbe aventure qui m'a amené que du positif. Et que je poursuis aussi parce qu'il y a d'autres formations qui me font de l'œil chez Live Mentor.
Donc on peut citer, hein, donc ta coach chez Live Mentor, c'était
Ouais,
Alizée qui est passée
exactement.
pour ces interviews, chez qui tu as fait un stage, c'était combien? 3 mois?
4 mois, 4 mois, ouais, à l'issue de ma formation pendant 4 mois.
Voilà. En
Et
tant que
avec qui je continue du coup de collaborer, donc ça a été vraiment une super rencontre et une super opportunité.
Voilà. Et puis vous êtes partis en trek ensemble.
Oui,
Tu me racontes
ça
un
a été encore un truc un peu dingue, puisqu'en fait, quand moi j'ai démarré mon stage donc avec Alizée, elle partait la semaine de mon début de stage, elle partait faire le Trophée Rose des Sables au Maroc. Donc en fait, j'étais community manager et ça faisait partie des événements à couvrir, le Trophée Rose des Sables. Donc tous les jours, voilà, prendre un petit peu le retour, la température de ce qui se passait dans le désert, écrire, rédiger ses posts. J'avais la chance aussi de travailler avec Elodie, qui était en alternance donc avec Alizée pour Derwin & Shine. Et on avait une belle complémentarité, ça a été une belle expérience. Moi, clairement, je me disais, waouh, mais quelle aventure de dingue! Enfin, le Maroc, le désert, le 4x4, les rallyes, toutes ces femmes réunies. Et puis, Alizée est rentrée et donc on a fait un co-living à Cibourg début novembre. Et puis, je me rappelle donc un soir à table où elle nous dit, à Elodie et moi, bon, les filles, j'ai un truc un peu fou à vous proposer. On lui a dit oui. Attendez, je vous ai pas dit quoi. Oui, mais oui, si c'est fou et si c'est avec toi, c'est 1000 fois oui. Et donc c'était de nous proposer donc de partir faire un trek au Sénégal qui avait lieu quelques mois après. Et donc on en est revenu, ça y est, on l'a fait, on en est revenu. Ça a été alors il y avait le côté cohésion d'équipe que finalement du coup avec Alizée on a beaucoup ri là-dessus qui était notre patronne. Donc même pendant le trek c'était la patronne donc ça nous avait bien fait rire. Et puis bah du coup il y avait Elodie qui était la benjamine de tout le trek et qui a utilisé la boussole qui nous a guidés tout le long de l'aventure. Sur la place de chacune aussi et sur la cohésion de l'équipe, ça a été vraiment super chouette. Puis après bah forcément il y a l'humain. On a cheminé avec une équipe gnome avec qui pareil il y a eu des belles connexions et chacun dans la répartition des rôles ça s'est fait naturellement. Et au-delà de ça, bah, on était quand même voilà 58 équipes. Chacune composée de 3 femmes. On a un peu fait un déni sur l'aspect sportif avant l'aventure. On s'est dit cool, le désert, le Sénégal, toutes ces rencontres, toutes ces femmes. Et puis il y avait un peu d'hôtel avant, un peu d'hôtel après, les mojitos, la piscine chouette. Et puis la veille de l'aventure, quand on a vu toutes les équipes arriver et que là on s'est dit ah, mais il va falloir marcher, non? À un moment donné, parce qu'il y avait quand même 3 jours d'à peu près 17 km dans les dunes, dans le désert. Avec la prise de cap, la boussole, choisir son cap, tout ça. Mais une fois dedans, ça a été vraiment super chouette, quoi. Et l'objectif, c'était de le finir. On l'a terminé ensemble. On était plutôt bien classés en plus, puisqu'on a fini 5e sur 58. Et à la fin, on s'est dit, waouh, mais on l'a fait. Et je pense que, comme on dit, rose un jour, rose toujours, tu rentres, t'es transformé à jamais, en fait. Et toutes ces femmes, enfin, toutes ces émotions, c'est juste un truc de dingue.
Mais il y a une vocation humanitaire à ce trek.
Ouais, c'est ça. En fait, c'est ce qui le rendait d'autant plus puissant, en fait. C'est qu'au-delà du côté sportif, challenge, dépassement de soi, sortir de sa zone de confort, qui était déjà un gros bloc, hein, il y avait en plus un côté solidaire, donc sur 2 aspects. Le premier, c'était en fait avec Ruban Rose. Il y a une étape solidaire, en fait, où on a marché le long de la plage et on a reconstitué le fameux symbole du ruban, donc à l'occasion des 30 ans de l'association Ruban Rose. Sachant que les participantes, toutes ou presque, ou de près ou de loin, on était toutes concernées par le cancer du sein. Certaines avaient perdu une amie, certaines étaient en rémission, enfin certaines se battaient pour une amie qui était confrontée aujourd'hui par ça, une sœur, une mère, enfin peu importe. Et c'est vrai que le fait de pouvoir avoir cette étape et cette mise en lumière, la prévention, parce que c'est ça qui est important et c'est vraiment ça aussi le message de Ruban Rose, c'est la prévention, l'autopalpation. On est tous concernés, on est toutes concernées de près ou de loin. Et on s'est senti effectivement très touché et très impliqué dans cette cause du ruban rose. Ça, c'était le premier volet. Et le second volet, c'était un aspect solidarité avec l'association Cap Éco Solidaire qui nous a permis, au travers donc de l'organisation du trek avec l'agence des Air Tours, de rendre visite à une école. Donc c'était l'école Cœur Maïmouna à Sali, qui est une école qui a été construite en fait par 2 femmes, qui est aujourd'hui gérée par 2 femmes. une mère et sa fille, qui ont des écoles, des classes qui vont de la maternelle jusqu'à la sixième. Le projet, en fait, c'était de faire une extension pour permettre aux enfants de pouvoir être scolarisés au-delà de la sixième. C'est une école où, enfin, elles sont parties dans les villages, sensibilisées au fait que c'était important d'être scolarisées. Il y avait le côté logistique où on a pu apporter du matériel, et donc des cahiers, des stylos, enfin à profusion, je pense qu'ils en ont pour un moment, et ça c'était vraiment chouette. Il y avait le côté donc financier où chaque équipe a pu mener un peu une cagnotte solidaire qui permettait du coup de participer à ce projet d'extension. Au final, c'est près de 20 000 euros qui ont été récoltés. Ce qui était d'autant plus puissant, c'est qu'on a eu l'occasion d'interviewer donc Aïda, qui est la fille de Pomba qui participe et qui s'occupe de cette école, qui nous disait qu'avant notre arrivée, elle était en train de s'essouffler, qu'elle se rendait compte que ben, c'était compliqué, qu'il n'y avait plus forcément de dons, de financement pour mener à bien le projet d'extension. Et que, enfin, c'est des femmes qui ont vendu leur bien personnel pour construire cette école. Enfin, elles sont vraiment, vraiment impliquées et habitées par cette cause. Et quand elle te dit, ben, en fait, vous nous avez donné un nouveau souffle, et enfin, pour reprendre ces mots, c'était pas un nouveau souffle, c'était même une grève de poumon. Ben, clairement, j'en ai la chair de poule, rien que de t'en parler, quoi. Enfin, c'était beaucoup d'émotions et ben, le fait d'avoir pu voir ben, tous ces enfants dans leur école, tous ces sourires, c'était juste magique en fait. Donc, ouais, gros, gros coup de chapeau à ces femmes.
Cool, bah, on ressent du coup beaucoup d'émotions dans tous les
Oui.
projets dans lesquels tu t'impliques hein, aussi, puisque tu vas à fond en fait quand tu vas quelque part. Voilà,
Ouais, je crois que c'est ça. Puis le Sénégal m'a ouvert les vannes, j'étais pas sensible avant, puis depuis j'ai l'impression que je fais que chialer. Mais du coup, bah, j'ai pris le pli aussi de me dire, bah non, mais en fait, assume, t'es devenue sensible, et en fait, t'es sensible pour les causes qui te touchent, donc faut assumer ça. Donc maintenant, je passe mon temps à chialer, quelque chose me touche. Donc voilà, c'est comme ça, mais ouais, j'y vais à fond, ouais.
Ouais. Puis c'est aussi une vraie force en fait l'intelligence émotionnelle de pouvoir être capable de mettre le doigt sur les choses qui nous touchent et les utiliser bah, comme force et ces projets. Tu fais tout ça. Si on reprend, bon, il y a un côté sportif avec le trek, qui rejoint aussi ton blog, puisqu'à côté de toutes tes activités, tu as aussi un blog. Tu veux nous en parler un petit peu?
Alors oui, alors le blog c'est Mange, Bouge, Aime. Et en fait, alors la genèse de ce projet, ça a été ben, aussi ma formation donc, de community manager. Ou dans le cadre de la formation, donc on devait monter en place, hein, mettre en place un projet qui reprenait un petit peu toutes les matières que l'on avait pu voir pendant la formation, que ce soit ben, la gestion, l'animation de communauté, ben, les rédactions, la création de contenu, choisir la pertinence d'un réseau social plutôt que d'un autre, etc. Et ensuite, bah, mettre tout ça en pratique à travers donc un réseau social ou deux réseaux sociaux du moins, et la mise en place du blog avec la partie aussi technique, créer un site internet, etc., etc. Donc le projet initial, ça a été de se dire bah, de quoi je vais parler? Je peux parler voyage, mais on était en plein Covid. Donc clairement, c'est pas forcément très opportun. Et l'autre sujet, c'était un petit peu, et ça avait été mon histoire personnelle, c'était de se dire bah, en fait, la relation au sport, au poids, à la féminité aussi, au bien-être, où en fait, j'avais un peu ce sentiment de, ouais, du syndrome de l'imposteur, de dire, mais attends, enfin, t'es pas fit tel qu'on peut l'entendre, t'es ronde, t'es sportive mais ronde, donc pourquoi tu vas parler sport, pourquoi tu vas parler alimentation, pourquoi tu vas parler tout ça? Et en fait, c'était justement bah, tout l'intérêt du projet, c'est de se dire que bah, casser un petit peu ces codes et sortir des idées reçues, être fit, c'est pas être mince, c'est être en forme, c'est être capable de. Et du coup, ce projet, en fait, il est vraiment né avec cette envie et cette vocation de montrer aux femmes que, on a tout le droit d'être sportive, on a tout le droit, d'aimer ou de ne pas aimer son corps, mais en tout cas de choisir de l'assumer et de vivre avec et de le rendre visible. Parce que depuis que moi j'ai commencé à travailler sur ce projet, je me rends compte qu'il y a énormément, énormément de femmes qui m'envoient parfois des messages, on se connaît pas, hein, et qui m'envoient des messages en disant, ah, tu m'inspires, tu me motives, jamais j'aurais osé franchir la porte d'une salle de sport, mais franchement, je suis trop déterminée, maintenant j'y vais tous les jours. Je me dis, mais waouh, mais c'est génial en fait. Enfin, au final, ce partage d'expérience, le fait que ça puisse, à travers les écrans, bah, servir à d'autres femmes et même d'autres hommes, finalement, et ça, je ne l'avais pas mesuré non plus, de se dire, ben voilà, en gros, des comptes de figures, il y en a des dizaines. Comment tu t'identifies à une nana qui fait du 36 quand toi t'es ronde mais que t'es sportive, ben en fait, cherche pas à t'identifier, juste sois toi-même, vis ta vie, accepte-toi et accepte l'idée qu'aujourd'hui, ben, il y a énormément de corps qui doivent être visibles. On doit porter aussi ce message-là parce que je me souviens quand j'étais jeune, je pense que si j'avais vu plus d'images comme ça, plus de modèles comme ça, Effectivement, en période d'adolescence, ça aurait fait naître moins de complexes. Donc, je pense à mes nièces et je pense à toutes ces jeunes filles. Je pense à toutes ces, excuse-moi du terme, mais toutes ces débilités qu'on peut lire et qu'on peut entendre au niveau des influenceuses qui te vendent des trucs, mais plus farfelus les uns que les autres et parfois même dangereux. Ça me rend dingue. Et la vocation de Mange Bouge Aime, c'était ça. C'est l'histoire d'une nana lambda qui un jour s'est dit pour sa santé, c'était vraiment ça, au-delà même du côté perte de poids, c'était un souci de santé, de me dire, ben, je vais optimiser mon capital santé, je vais prendre soin de moi, je vais mieux manger. Alors certes, j'ai perdu du poids, mais aujourd'hui, c'est plus du tout le projet. Aujourd'hui, c'est vraiment de me sentir bien dans mon corps. Ça m'a ouvert d'autres perspectives aussi. Ben, je pense que la reconversion professionnelle, ça en a fait partie. Quand tu es bien dans ta vie, quand tu es bien dans tes baskets, ben forcément, tu es bien dans ta tête et ça t'ouvre plein d'opportunités. Et puis des tas de choses, le bullet journal, enfin, ben, les cartes aussi, enfin, toute cette spiritualité aussi et ce bien-être que ça a pu amener. Ben, mange, bouge, aime, ça représente un petit peu tout ça. En gros, c'est mange bien, mange mieux pour ta santé. Bouge à chaque fois que tu peux, peu importe ton sport, mais juste bouge et aime la vie parce que la vie est un cadeau en fait. Donc, donne-toi le droit de faire ce que tu as envie.
Top. Trop bien. Donc là-dessus, on peut te suivre sur Instagram.
Ouais, sur Instagram, là où je suis le plus active, c'est ma page, enfin, c'est mon compte Instagram, donc mange, bouge, aime. Il y a aussi le compte Facebook et il y a le blog. Donc là, alors effectivement, avec le Sénégal, mes révisions, mes examens, j'étais un petit peu moins présente. Mais le blog www.mangebougem.fr qui est aussi actif.
Donc on mettra tout ça juste ici en dessous. Est-ce qu'avec tous ces projets, tu te considères comme étant une slasheuse?
Une slasheuse, c'est-à-dire.
Alors, slasheuse, c'est un terme qu'on utilise pour les personnes, tu sais, qui sont, je dirais, photographe, slash, entrepreneur, slash, auteur, tu vois, qui cumulent en fait
Ouais.
plusieurs métiers. On peut parler de side project aussi. Est-ce
Ouais,
que toi,
alors
tu considères que ton entreprise, c'est un side project, c'est un projet à côté de ta vie salariée, ou est-ce que ta vie salariée, c'est un projet à côté de ton entreprise? Ça peut être aussi dans ce sens.
ben, tout ça, ce sont des projets, mais sur la même ligne, en fait. Donc, du coup, ouais, je pense que je suis une slasheuse. Parce que finalement, ben, effectivement, je suis salariée, je suis auto-entrepreneuse, je suis maman, je suis sportive. Je suis bénévole engagée, mais il n'y a pas d'ordre de priorité. En fait, tout ça, ça me définit. Et du coup, bah, c'est ce qui fait ce que je suis aujourd'hui. Et je pense que enfin, je vais pas donner plus d'importance à un rôle plutôt qu'à un autre. Parce que de toute façon, ça se combine tellement, c'est tellement étroitement lié au quotidien que ouais, je suis une slasheuse.
Cool.
D'ailleurs, je vais le ressortir maintenant que je le sais. C'est classe, attends.
Grave, grave. Non, c'est un métier hyper tendance. Le sentiment que ça me donne en t'écoutant, c'est qu'on a l'impression que tu fais rien, tu es juste toi-même. Et en fait, ça ne veut pas dire ne rien faire parce que c'est déjà en faire beaucoup, juste être Karine. Et tu as des opportunités qui s'ouvrent à toi, tu sais. Ça me donne vraiment le sentiment que tu as cette attitude dans la vie qui fait que quand on te rencontre, ben, on a envie d'ouvrir des opportunités, d'ouvrir des portes. Tu vois, suite à, t'es en formation, bim, il y a une opportunité de stage qui arrive derrière. T'es en stage, bim, il y a une opportunité de trek, puis une opportunité de continuer.
Complètement.
Et donc ça.
Ouais, non, mais c'est complètement ça. Ouais. À l'inverse, c'est aussi quelque chose que ce cheminement m'a appris, c'est que le fait d'être moi, ça m'a aussi demandé à un moment donné d'accepter de, entre guillemets, perdre des gens sur ma route, en fait. Parce que par moment, sur ce cheminement, les gens auxquels je tenais vraiment, hein, je pense que auxquels je tiens encore aujourd'hui, amicalement ou même au niveau de relations, sur la famille, sur, enfin, des personnes qui à un moment donné ne te comprennent pas ou ne valident pas tes choix. Et toi, tu sais, tu sens intrinsèquement, viscéralement que ton chemin, il est là. Et le fait d'être soi et de se dire, ben, non, en fait, aujourd'hui, je me donne le droit de ne quitter que moi, d'avancer tel que je l'entends et de suivre ma voie parce que je sens que c'est là. Et quand je regarde maintenant dans le rétro, je me dis, ben, ouais, quelque part, peut-être que ces personnes-là, ben, je les ai perdues à des moments charnières de ma vie. Mais c'était aussi nécessaire parce qu'aujourd'hui, la femme que je suis est pleinement épanouie. Je pense que j'ai dû faire ce travail de me dire non, continue, trace ta route et n'écoute que toi parce que c'est là que tu dois aller. Et effectivement, aujourd'hui, je le dis souvent, j'ai l'impression que tout est bénédiction en fait. Comme tu dis, je vais là, je rencontre quelqu'un, derrière, ça amène sur autre chose et puis ça amène sur autre chose et ça me fait découvrir autre chose parce que j'aime apprendre, je m'intéresse à plein de choses, je suis curieuse, c'est pas pour rien qu'on m'appelle le suricate. J'ai l'impression d'être toujours, tu sais, aux aguets, toujours à l'affût de nouvelles choses. J'aime les transmettre aussi. Je pense que bah oui, quand on dit bah souris à la vie te sourira, le positif attire le positif, les cercles vertueux, tout ça, j'en suis vraiment intimement convaincue. Alors je te vois, hein, tout n'est pas rose et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficultés. Comme tu dis, ça ne veut pas dire que je ne fais rien. Mais en vrai, j'ai l'impression de ne rien faire et qu'aujourd'hui, bah, tout se combine parfaitement bien et c'est très gratifiant et merci la vie.
Bon,
Merci aux belles
quand tu
rencontres que
dis
j'ai pu faire.
t'as l'impression de rien faire, tu fais quand même un sacré paquet de trucs. T'es pas non plus dans ton canapé à attendre que l'univers t'envoie des clients.
Non, non, c'est sûr.
Un
Mais
sacré
je suis à l'écoute de l'univers, on va dire.
paquet. C'est ça. Ce qui est bien aussi en écoutant ton parcours, c'est de voir que on n'est pas obligé de faire tout ou rien, soit salarié, soit je quitte tout et je deviens entrepreneur. Le fait de trouver aussi l'équilibre entre les deux, parce que tu as un besoin de sécurité financière qui est lié à ta situation familiale et à toute ta grande petite famille de plein d'humains et d'animaux à s'occuper, bah, c'est pas non plus un choix qui est moins bien qu'un autre. Et je pense qu'il y a certaines personnes qui nous regardent qui peuvent penser que bah, la seule bonne façon de se mettre comme naturopathe à son compte ou prof de yoga à son compte, c'est de vraiment tout quitter du monde d'avant et puis de tout basculer. Enfin, des fois, il y a des personnes comme ça qui sont très tout ou
Ouais,
rien.
ouais.
Et finalement, elles se mettent en difficulté et elles se privent de peut-être cette joie et cet enthousiasme qu'on voit chez toi, de pouvoir trouver aussi le bon des deux mondes, quoi.
Mais je pense que y a ce côté, comme tu disais aussi, alors moi, c'est rassurant pour moi d'avoir quand même mon bagage en CDI, d'autant plus que c'est un bagage CDI qui me plaît, qui m'anime et que j'adore. Donc ça, je pense que ça aide aussi. Et je ne me dis pas, oh, le fardeau, je vais travailler aujourd'hui. Pour mon patron, enfin, je pense que ça, c'était aussi vraiment important, le choix de ce poste-là, dans cette société-là, avec cette direction-là. Enfin, c'est des gens qui, humainement, me parlent. Donc, je m'y sens bien, je m'y sens épanouie. Et c'est vrai que bah, ce côté sécurisant et qui te donne aussi, et qui t'insuffle la force et la motivation de pouvoir après développer cette activité, effectivement, à ton compte. Et moi, enfin, avant toute cette expérience de reconversion, enfin ces rencontres, que ce soit Alizée ou que ce soit toi, enfin le côté justement side project, je l'avais en tête, je l'imaginais, mais je voyais pas comment le rendre possible en fait. Et c'est à ça que j'aspirais. J'avais envie de pouvoir avoir un côté sécurité, et un côté un peu freestyle où je travaille pour moi, où parce que j'avais déjà connu l'expérience à mon compte avec mon ex-conjoint, c'était beaucoup de responsabilités, c'était beaucoup de pression parce que dans le voyage en plus, ben, t'as la pression de faire partir des gens au bout du monde. Enfin, donc j'avais aucun problème à retourner sur un simple rôle de salarié, mais c'est vrai que derrière, le fait de travailler pour soi et d'avoir un plaisir et une motivation à réaliser des choses pour toi, aider tes clients. Ben ça c'est un vrai kiff et cette double casquette, je pense que c'est aussi ça, c'est que quand tu commences à t'ouvrir à ça et à te renseigner sur le sujet, bizarrement, tu rencontres plein de personnes dans la même situation qui te disent mais non mais c'est possible, un match c'est possible, t'organises ton temps, t'organises tes journées, tes week-ends selon tes dispos, selon tes impératifs et c'est un schéma qui est possible. Et donc, bah, effectivement, bah, j'ai rencontré des gens qui le faisaient, j'ai écouté des podcasts avec des interviews de femmes qui le faisaient, et je me suis dit, mais effectivement, je pense que même vis-à-vis de mes enfants, enfin vis-à-vis de, aujourd'hui j'ai deux fils et je sens un peu cette responsabilité d'en faire des hommes consciencieux, respectueux de la femme, et je me dis, bah, c'est aussi un modèle que moi je veux leur donner, de se dire, ben bah, voilà, enfin, une femme forte, une femme qui se bat. Avec ce sentiment aussi de résilience et de se dire bah, peu importe ce qui arrivera, si je mets un genou à terre, je me relèverai parce que bah, parce que la vie nous donne cette force-là et ce double schéma-là, cet équilibre-là, bah, c'est quelque chose. Voilà, j'aspirais à ça sans savoir comment le mettre en place et tout ce cheminement bah, de formation, de rencontre, de reconversion professionnelle, ça a été à chaque fois bah, des pions qui se sont ou des pièces de puzzle qui se sont parfaitement imbriquées au final, quoi.
Merci si cette interview peut inspirer d'autres personnes aussi dans l'entourage des personnes qui nous regardent. N'hésitez pas à la partager, puisque comme Karine, moi aussi j'ai eu besoin de regarder beaucoup de témoignages de gens avant d'oser me lancer. Merci Karine pour ton histoire. On peut donc te suivre sur les réseaux sociaux, Mange Bouge M, et sur ton blog mangebougem.fr. Et puis ben, nous, on te retrouve dans nos réunions, puisqu'on va continuer à travailler ensemble de toute façon dans les prochains mois. Donc on te retrouve très bientôt. Et très
Avec
contente.
plaisir. Puis ben merci à toi encore une fois de cette tribune et félicitations pour ce beau projet. Parce qu'effectivement, en plus, voilà, les femmes, l'histoire de femmes inspirantes, je pense que c'est quelque chose qui nous fait du bien dans cet univers et dans cet élan un peu de sororité et féminité, tout ça d'après Trek. Ben voilà, merci à toi pour cette invitation.
Trop cool. Merci Karine, à
À
bientôt.
bientôt!